Bonsoir à toutes et à tous. Par les temps qui courent, ce soir, une heure de discussion avec la chorégraphe Emmanuelle Vaudine.
Un tango, une danse, un baiser.
Et tu peux t'appeler tes papés.
Ça y est, je suis 21h.
Ah ben, à vous voir arriver, on n'aurait pas cru que c'était si bien. Donc, voilà, ça résume, quoi.
C'est vrai que le printemps, l'été, c'est formidable. On avait les mêmes tomates et les petits pois.
Par les temps qui courent.
Romain de Bec de Lièvre avec Emmanuelle Vaudine.
Ramasser la peau de leur voix à l'ombre de leurs gestes.
Au centre du plateau se dresse un double escalier, l'un de face et l'autre de profil. L'un sert à la montée et l'autre à la descente des 9 danseurs qui s'y succèdent. 9 danseurs arpentent et occupent l'espace du plateau, ils s'avancent vers le public, lui tournent le dos, rient, s'arrêtent, pleurent, s'arrêtent, dansent, s'arrêtent, puis recommencent. Ces 9 danseurs apparaissent dans votre dernière création, Emmanuelle Vaudine. Elle porte le nom d'un pays qui n'existe pas, Cocagne. C'est une création qui nous donne à voir des images, arrêtées et en mouvement, comme un spectacle qui nous regarderait, et comme une chevauchée qui nous emmènerait vers une destination inconnue. Bonsoir Emmanuelle Vaudine.
Bonsoir.
Vous êtes chorégraphe et vous dirigez le Phare, le Centre chorégraphique national du Havre. Votre spectacle Cocagne se joue au Théâtre du Chaillot à Paris jusqu'à demain, jeudi 14 février. Merci d'être là.
Merci.
Je vous propose qu'on commence par écouter une archive.
Voici le pays de Cocagne, de Broguel. Formant le centre du tableau, un arbre ceinturé d'une table rustique où s'étalent des pâtés en croûte, un chapon rôti, des pièces de gibier. 3 ripailleurs étendus au pied de l'arbre, terrassés. Un soldat rouge couché en chien de fusil sur sa lance. Un paysan au large dos qui ronfle sur son fléau. Un professeur affalé dans sa pelisse, à côté de ses livres, qui rêve, les yeux ouverts, la braguette délacée.
Emmanuelle Vaudine, on écoute une archive de l'ORTF de 1948, une description d'un tableau de Bruegel, le pays de Cocagne, et on entend juste après des émotions. Alors, juste avant l'émission, on se demandait si c'était des rires ou des pleurs qui figurent dans votre spectacle. Ce mot-là, Cocagne, est-ce qu'il a servi de point de départ à cette création-là? Ou est-ce qu'il est venu en cours de travail?
Le titre est venu, au tout départ, mais c'était... J'aime bien les titres un peu énigmatiques. Ma précédente pièce s'appelait Tombouctou, déjà vu, avec ce paradoxe de Tombouctou dont on peut imaginer un tas de choses, mais que peu de gens connaissent. Donc, accolé à déjà vu, une sorte de référence comme ça, un peu à l'idée de l'inconscient. Et avec Cocagne, il y a aussi l'idée que ce pays de Cocagne est un pays de fantasmes, que personne, dont tout le monde, on va dire, a à peu près une idée, mais que personne évidemment ne connaît. Et puis il y a aussi cette idée au-delà du fantasme de quelque chose qui irait dans la dérision. Donc, mais le titre est arrivé avant, au tout début, en fait.
Ça peut provoquer un spectacle, un titre. Ça peut suffire.
Non, en général, c'est vrai que ce sont des titres un peu pièges, puisque évidemment, si on pense au pays de Cocagne, on va imaginer que la pièce va dans une sorte d'optimisme forcené alors que je crois qu'elle est pas vraiment à cet endroit. Donc j'avais envie d'un titre qui est un peu aussi à l'image de la pièce et qui est fondé sur la question du conflit.
Dans Cocagne, on entend dans la description de ce tableau de Bruegel l'Ancien, quelque chose, vous voyez, où aussi une espèce de fourre-tout. Enfin, une idée où il y a énormément d'éléments hétéroclites qui vont pouvoir voisiner ensemble des personnages différents, d'horizons différents, et qui vont apparaître dans un même tableau. Est-ce que c'était quelque chose aussi qui était important pour vous?
Oui, j'avais envie de travailler sur... alors là, la question effectivement du conflit et la question un peu de la dialectique et du coup de faire dialoguer des images qui a priori ne sont pas, ne vont pas ensemble. Voilà. Donc il y a le point de départ, c'est ça aussi, c'est trouver une dialectique et faire en sorte que les images se confrontent et se rentre en conflit pour essayer de faire émerger une troisième chose, peut-être, de ce montage, en tout cas, qui existe dans les différentes séquences.
C'est aussi un mot qui appelle à la recherche, dans la création.
Oui, alors moi je suis assez, je pars jamais les mains vides quand j'arrive au plateau. En fait, le premier point de départ, alors c'est pas le tableau de Bruegel, c'est le Léménine de Velázquez. Et on va dire que le point de départ, c'est un principe formel que je voulais totalement opposer à cette dernière création, Tombouctou déjà vu, qui était un huis clos. Et qui ne considérait donc absolument pas le spectateur, ou en tout cas le spectateur était considéré comme presque voyeur, hein, d'une situation sur le plateau, et comme une sorte de principe formel inverse, j'ai décidé pour Cocaine de partir d'un principe sur lequel la frontalité serait le maître mot. Hein, voilà. Donc à partir de ce principe de formalité, de formel, de frontalité. Le travail sur la question de la représentation est arrivé très vite. Et évidemment, la représentation étant un mot très vaste et une sorte de puits sans fond, j'ai commencé un peu à... Alors, on est parti du tableau des Ménines, qui est sans doute le tableau de l'histoire de l'art, sur la question de la représentation, qui, encore aujourd'hui, questionne à la fois historien de l'art et puis philosophe, et puis progressivement voilà, on a dérivé, j'ai dérivé vers Foucault à partir des Ménines, puis de Foucault vers d'autres historiens comme Marie-José Monzin, pour arriver sur Georges Dédi Huberman avec Peuple en larmes, peuple en armes, et qui a été un peu le cœur du travail, qui a occupé le cœur du travail, puisque ce livre était faisait écho à la question des émotions, qui est un sujet que j'ai abordé il y a déjà très longtemps, en partant aux États-Unis dans le département de neurologie d'Antonio Damasio. Voilà. Donc
il y a énormément de matière, en fait.
Énormément de matière, quelque chose qui s'est resserré autour de la question de l'émotion, parce que effectivement il fallait trouver une sorte de fil rouge à ce travail sur la représentation, et que ce travail sur les émotions tout d'un coup faisait écho, résonnait par rapport au travail que j'avais pu faire il y a un peu plus de 20 ans dans ce département de neurologie. Et voilà, et j'ai tiré le fil comme ça. On a tiré le fil aussi avec les interprètes sur cette question des émotions, en essayant de travailler vraiment sur cette question qu'aborde Dédi Huberman à travers le cinéma d'Eisenstein, qui est très présent dans la pièce, sur la question de la valeur de l'émotion et de la transformation de l'émotion. Voilà, de cette métamorphose qui aussi sont un peu des thématiques qui m'intéressent et qui traversent un peu l'ensemble de mes pièces depuis longtemps. Métamorphose d'état de corps, entre autres. Voilà.
On va y revenir sur tous ces matériaux au cours de l'entretien. Mais la question que je me pose, c'est est-ce que les danseurs, les interprètes ont amené ces choses-là aussi, ou est-ce que c'est vous qui apportez ce matériau à chaque fois ?
Alors, moi, j'amène une structure, j'amène, on va dire, les idées, le contenu, on a regardé beaucoup de choses, on a lu beaucoup de choses, et le point de départ, c'est un montage filmique de 30 minutes d'un ensemble de films, à la fois de fiction ou plus documentaire. Et puis, ce film, on va dire, a servi un peu de socle dramaturgique sur l'agencement, en tout cas, des séquences. Et après, se met en route au plateau un ensemble d'improvisations que je guide. Donc la pièce est extrêmement structurée, et en même temps, elle repose essentiellement sur la prise en charge de l'interprétation des danseurs et comédiens, puisqu'il y a 7 danseurs et 2 comédiens, même si tout le monde est logé à la même enseigne, donc tout le monde fait la même chose, on va dire. Mais c'est vraiment cette prise en charge des interprètes, du contenu émotionnel à mettre en jeu, sur lequel se fonde la pièce. Sans cela, on va dire que la structure, ou même la question de la représentation des émotions au plateau, ne tiendrait pas, ou tiendrait comme une sorte de concept, ce qui n'est pas le cas de cette pièce.
Je vous propose qu'on écoute Michel Foucault.
J'ai commencé toute cette histoire en décrivant, en quelque sorte en racontant, un tableau de Velázquez, Les Ménines. J'ai choisi ce tableau parce qu'il me paraît être comme une sorte de modèle réduit de toute l'histoire que j'ai voulu retracer. Dans ce tableau, en effet, on voit un peintre, Velázquez lui-même, qui est en train de peindre une toile. On ne sait pas ce que représente cette toile, ni si même elle est commencée, puisqu'on n'en voit que l'envers. Sur le même plan que la toile, formant une sorte de frise, il y a un certain nombre de personnages, des suivantes et une princesse. La princesse a les yeux tournés vers l'extérieur du tableau et manifestement, comme le peintre lui-même, elle regarde quelque chose. On peut donc gager que le peintre est en train de peindre une certaine scène que nous ne voyons pas et cette scène, la princesse elle-même, la regarde. Tout ceci se passe dans une grande pièce et tout autour de cette grande pièce, il y a des tableaux. Des tableaux que l'on peut identifier, c'est des tableaux de Rubens, de Jordaens, etc. Or, au milieu de ces tableaux qui sont suspendus au mur du fond de la pièce, ainsi représentée sur le tableau, il y a un petit miroir. Et dans ce miroir, on voit le reflet du roi et de la reine d'Espagne. Par conséquent, on peut conclure, mais c'est simplement une conclusion, que le peintre est en train de représenter sur sa toile le roi et la reine d'Espagne et que la jeune princesse est en train de regarder le roi et la reine qui sont en train de se faire portraiturer.
Emmanuel Vaudine, on entend la voix de Michel Foucault, une archive de France Culture de 1973 qui décrit donc ce tableau Les Ménines de Velázquez, c'est aussi dans l'introduction de son livre Les mots et les choses, où on entend qu'il décrit très précisément ce complexe jeu de regard, miroir, tableau qui se renvoient l'un et l'autre. Qu'est-ce qui vous a intéressé dans cette lecture de Michel Foucault pour ce travail Cocagne ?
Très clairement, la relation un peu triangulaire entre nous, ce qui est peint, le sujet, ceux qui regardent le sujet et qui regarde le sujet, qui regarde qui en fait, qui est voyant et qui est vu. Donc cette espèce d'interrogation qui court aussi dans Cocagne, puisqu'il y a vraiment la question du miroir qui m'a intéressée. Alors après, ce qui m'a fascinée, au-delà de la lecture des suivantes, donc qui est au début des mots et des choses, c'est aussi la lecture qu'a pu en faire, l'analyse qu'a pu en faire plus tard Daniel Arras, qui vient contredire cette analyse aussi de Foucault, puisque apparemment ce tableau, quand on a découvert les rayons X, a été repeint. Donc en fait, il n'y avait pas Velázquez au départ sur le tableau, mais il y avait, on tendait, je crois, le sceptre à l'infante qui devait être reine. Et étant donné que la reine a mis au monde un fils, elle a été détrônée, l'infante a été détrônée de la succession. Et donc on aurait a priori redonné ce tableau à Velázquez, qui a donc s'est donc peint. Donc toute l'analyse finalement de Foucault, d'après Daniel Arras, ne tient pas la route. Donc ça en fait quelque chose, ça en fait encore une couche supplémentaire d'interrogation.
Qu'est-ce que l'histoire de l'art peut apporter à la danse selon vous ? Ou en tout cas l'histoire de la peinture ?
Alors là c'est une question, c'est vrai que je me suis focalisée sur ce tableau sur lequel on a travaillé d'ailleurs avec les interprètes pendant 3 jours jusqu'à épuisement. Je m'en sers avant tout comme une sorte de prétexte, même si la peinture est très souvent vient très souvent dans mes sources, donc j'ai pas trop de réponses sur une question aussi large. Voilà, moi, elle vient comme ça nourrir une réflexion. Elle vient poser des questions. Et voilà, et elle me fait dériver lentement. Après, dans Cocagne, c'est vraiment un point de départ parmi des matières qui vont aussi bien effectivement d'œuvres plastiques comme celle de Maurizio Catlan aussi, comme celle d'Edouard Levé, jusqu'à des films ou jusqu'à même des choses prises sur la toile qui n'ont rien à voir avec qui sont beaucoup plus contemporaines et qui sont des choses qui nous concernent au jour le jour, que ce soit des unes de journaux ou voilà. Donc on a été le champ a été très vaste.
Et comment on travaille l'image avec les interprètes ?
Alors, c'était plutôt... c'est intéressant de parler d'image, parce que moi, j'ai justement essayé dans cette pièce de ne pas faire d'image. C'est-à-dire que, ou en tout cas de questionner celles que je présentais en essayant de les mettre à distance, mais de ne surtout pas faire image. Ça a été un travail du coup aussi beaucoup avec la lumière, puisque Yannick Foissier, qui a éclairé la pièce, a très bien compris l'enjeu d'exposer les danseurs, mais de ne pas travailler l'espace scénographique avec cet escalier comme quelque chose qui viendrait raconter autre chose. Donc il y a eu vraiment un désir de ne pas faire d'image, mais de présenter les choses dans leur plus simple élément, ce qui lui donne aussi du coup une certaine forme d'aridité, puisqu'il y a comme ça dans certaines séquences des présentations de, on va dire, des émotions pures dans lesquelles finalement l'image n'existe pas. Voilà, enfin il y a une sorte de savant mélange en tout cas.
Qu'est-ce qui aurait de dangereux dans le fait de, pour la danse, pour un travail chorégraphique, de faire des images?
C'est-à-dire qu'on est quand même noyé d'images avec lesquelles on ne sait plus trop comment on peut ou on doit les regarder. Donc j'ai envie de dire que c'est pas la peine d'en rajouter. C'est plus intéressant de questionner ce qui nous interpelle et ce que nous devons faire avec ça. Donc moi, dans ce travail-là, il y a eu effectivement l'idée de creuser la question de la mise à distance, ce qui ne reviendrait pas à s'éloigner de l'émotion, mais à la questionner tout en creusant une sorte en donnant une sorte d'épaisseur à ce qui est présenté au plateau, ou en venant un peu contredire ce qui est présenté, de façon à ouvrir le champ et permettre à chacun finalement de se retrouver, d'être dans une posture qui n'est jamais la même pour chaque spectateur. Ça en fait une pièce sans doute pour le spectateur d'une grande instabilité. C'est-à-dire que j'ai eu vraiment envie de ça. C'est-à-dire qu'il y a une séquence, par exemple, de larmes qui travaille, pour laquelle chaque interprète a une feuille de route assez précise, dans laquelle il y a du vrai, du faux, différents possibilité d'interpréter la chose, et donc pour le spectateur différentes possibilités d'incarner ce qu'il reçoit, différentes façons de recevoir finalement ça. Donc je m'aperçois qu'il y a des gens dans cette séquence de larmes qui sont en totale empathie et qui ont envie de pleurer, et quand d'autres ont envie de rire. Et la pièce agit souvent comme ça pour les différentes séquences, c'est-à-dire qu'il y a cette forme d'instabilité, on ne sait jamais réellement si on doit être, la façon dont on doit être touché ou pas, si on est pris ou si on est juste observateur. J'avais envie de travailler cette mise à distance en gardant cette idée d'instabilité à la fois pour les interprètes, parce que il y a aussi quelque chose d'extrêmement de nouveau en tout cas dans cette pièce, c'est que je travaille, en fait je suis avec eux puisque je suis en régie, et c'est moi qui envoie en direct et la musique, et qui gère à la fois les temps de silence et certaines séquences, le rythme de certaines séquences. Donc je laisse les interprètes toujours dans une sorte de zone de flottement rythmique, qui leur permet d'être en état de vulnérabilité, et cette vulnérabilité les oblige à être dans un état émotionnel qui doit être présent au plateau pour qu'il y ait ce partage avec le public de cette instabilité constante.
Dans le texte de Foucault, Les mots et les choses sur les Ménines de Velázquez, il y a cette phrase qui est « l'image doit sortir du cadre ». Et je me suis dit, en voyant votre spectacle, qu'il y avait aussi peut-être quelque chose de cet ordre, au sens où, finalement, on ne peut pas faire de cadre au plateau.
Oui,
il n'y a pas de cadre.
Ou en tout cas, il y a une profondeur de champ, et il y aurait un cadre avant. Il y a une séquence qui est particulièrement parlante à cet endroit-là, c'est-à-dire qu'il y a le cadre de l'avant-scène, de ce qui vient devant et de ce qui... ferait office de vérité, et puis un second plan, même plusieurs seconds plans, dans lesquels se jouent d'autres d'autres formes de regard possible et d'autres formes de projection possible dans ce qui est dit à l'avant-scène.
Moi, je recherche à être intrigué par la fin de du micro-voyage qu'est la réalisation d'une œuvre. C'est-à-dire que quand je fais un travail qui me semble extrêmement compréhensible à moi-même, ça m'ennuie un peu. Là, je suis assez content parce que même après avoir regardé quand même longtemps ces images, à la fois les dessins et les photos que j'ai faites, je ne sais toujours pas exactement ce que j'ai fait. Et je continue à être assez surpris, à être assez intrigué, à essayer moi-même d'interpréter pour moi, mais pas pour... Enfin, je fais pas ce travail psychanalytique d'essayer de dire, voilà, ceci symbolise cela. Je suis très froid lors des prises de vue, je donne pas le choix. Je montre le dessin et je mime aux gens ce qu'ils doivent faire. Et je fais en sorte d'ailleurs que ce soit jamais des gens qui se connaissent ou qui se connaissent. Je fais en sorte qu'ils se connaissent peu pour pas qu'il y ait de ricanements, de diversions. Il y a quelque chose d'un rituel presque d'initiation maçonnique d'ailleurs dans les séances de photos que j'organise. D'ailleurs, il faut un jour que je le filme parce que c'est assez curieux. C'est ce que me disent les gens qui participent à chaque fois. Mes photos, c'est comme déjà des hybrides théâtre, sculpture, sculpture immobile. Ça relève de tout ça à la fois, mais le résultat n'est qu'une photo, en fait.
Emmanuel Vaudine, on entend une archive d'Edouard Levé sur France Culture en 2006 qui parle de son travail photographique, un travail particulier qui consistait en reconstitution notamment de photos de presse, de photos de matchs de rugby ou de photos porno qui étaient reconstituées par des comédiens et souvent des danseurs dans d'autres costumes mais dans les mêmes postures. Et c'est un travail qui apparaît dans votre spectacle puisqu'il y a des moments où on voit véritablement des tableaux vivants et des images arrêtées. Pourquoi il vous a fallu un moment intégrer ces choses-là dans ce spectacle Cocagne, ce travail-là?
Alors on avait dans le montage filmique que j'avais fait au tout départ du travail, il y avait toute une séquence extraite de Blow Up de Antonioni. Donc on est parti de cet extrait de film pour constituer cette séquence photo qui rappelle à beaucoup cette espèce d'envahissement des selfies que l'on rejoue d'une certaine façon avec ce conflit de son et d'image, puisque en fait la pose photo se fait exactement en même temps que le clic photo, ce qui en fait quelque chose d'un peu anachronique comme ça entre le déclenchement du son et le déclenchement de l'image. Et puis moi j'aimais beaucoup le travail d'Edouard Levé que je connaissais, et très très naturellement voilà, on est arrivé à cette séquence parmi ces selfies de cette séquence vraiment inspirée, une sorte de clin d'œil à Edouard Levé sur la série Pornographie, dans lequel effectivement il y a aussi quelque chose qui est mis à distance dans le fait que d'une part, ils sont tous habillés, et d'autre part, alors chez Edouard Levé, de mémoire, les visages ne sont pas visibles. On voit des têtes, on les voit, mais on voit jamais les visages. Nous, on a vraiment travaillé à ce que le visage soit neutre, entièrement sans expression, ce qui vient rendre presque irréel finalement la posture. Je me suis aperçu que y a quelques jeunes enfants qui ont pu voir la pièce et pour qui finalement, assez curieusement, l'aspect pornographique n'apparaissait absolument pas. Donc c'est amusant de voir que finalement, c'est aussi beaucoup dans le visage et que se joue l'émotion, et que à travers ces corps comme ça, c'est peut-être uniquement une sorte de quelque chose de culturel qui parle évidemment aux adultes, mais que les enfants ne reçoivent pas, en tout cas pas pareil que les adultes.
Je disais en introduction de cette émission qu'il y a plein de moments où le spectacle s'arrête. Ou en tout cas, on a une impression d'arrêt avec des images arrêtées. Quelle est la particularité de ce travail-là, de l'interruption ?
Alors, y a effectivement des choses qui sont très arrêtées, qui sont coupées. C'est-à-dire qu'il y a vraiment l'idée d'une sorte de présentation comme ça, d'une émotion, et puis ça s'arrête. Et mon souhait, c'est vraiment de ne jamais donner de résolution à ce qui est montré au plateau. C'est-à-dire que quand je parle de mise à distance, c'est-à-dire que je ne porte pas de jugement sur ce que je présente, je laisse le champ ouvert. Donc, y a un travail très précis sur la façon dont les choses s'arrêtent et sur l'absence de résolution, hormis quelques petits clins d'œil comme ça, extrêmement furtifs, que l'on peut attraper ou pas sur la façon dont une séquence s'arrête. Et qui va déterminer, on va dire, l'aspect factice ou non de l'émotion. Donc, mais ça se joue vraiment à quelque chose qui est infime. Mais il y a dans cette idée que les choses s'arrêtent, c'est qu'il y a une sorte de présentation. Voilà, les choses sont dites, elles sont présentées telles que, un peu comme on dirait, bon, voilà, bon, on a vu cette chose-là, mais qu'est-ce qu'on fait de ça? Qu'est-ce qu'on va faire de ça? Donc, il y a rythmiquement cette idée des arrêts et de ces silences qui nous permettent aussi de se dire, bon, qu'est-ce que je fais de ça? Et après, la pièce joue aussi beaucoup sur l'accumulation, et c'est grâce, on va dire, à cette accumulation que commence à résonner, on va dire, une autre forme d'appréhension de ce rapport aux émotions et de ce qu'on fait de l'ensemble de ces images qui se superposent, qui viennent se superposer, un peu comme dans la vie, hein, au final.
C'est aussi des moments où, en tant que spectateur, on peut être suspendu et se demander à quoi est-ce qu'on est en train d'assister.
Exactement. Et il y a vraiment cette idée de... Alors, j'ai des amis qui viennent et qui sont pas nécessairement des gens qui connaissent la danse contemporaine. Alors, ils me disent, bon, mais est-ce qu'il y a... Il y a des choses que je n'ai pas comprises. Alors, je dis, mais en fait, c'est très curieux sur cette pièce qu'il y ait des choses à comprendre, parce qu'il y a... Vraiment, pour le coup, rien à comprendre, si ce n'est une sorte de lâcher prise à recevoir des choses ou à ne pas les recevoir, ou à les recevoir très différemment les uns des autres. L'espace que je laisse dans les temps de silence où il ne se passe a priori rien que des spectateurs qui regardent neuf hommes et femmes au plateau et inversement, c'est cet espace, effectivement... pas tant de réflexion, je dirais, mais de temps d'absorption. C'est aussi important d'avoir ce temps qu'on n'a plus du tout, dans lequel on est dans une sorte de défilement de choses sur lesquelles on est dans une incapacité avec lesquelles on est des images qu'on ne peut pas digérer, on va dire, quoi. Donc il y a une sorte de temps comme ça arrêté qui sert à digérer avant de tourner la page et de passer à autre chose. Bon, au final, on est quand même dans quelque chose qui vient travailler le spectateur, à mon avis, au corps sur la question de l'aliénation et de la soumission. Hein, si on doit quand même parler du fond vraiment de la pièce sur voilà de ce qui travaille dans la pièce, c'est quand même cette question qui aussi est travaillée par ce double escalier. Qui est employé par les interprètes de manière cyclique, puisqu'on est
pas sûr de temps, et tout le
voilà, et qui monte et qui descend, où il y a une sorte de mise en boucle comme ça, et de travail de répétition, comme un peu une journée qui recommencerait ad vitam aeternam. Donc voilà, à l'intérieur de ça, il y a quand même des pauses et ces temps de silence que je gère en direct et que des fois j'étire de manière plus ou moins longue, en fonction aussi de la façon dont je sens le public en capacité de vibrer aussi avec cet espace qui s'installe entre les danseurs et eux, quoi. Voilà, donc il y a ce temps fragile que j'aime à travailler en direct et qui ne pourrait pas être travaillé autrement qu'en direct, parce qu'on parle avant tout d'émotions et de ce qu'on va partager ensemble dans ce moment-là.
L'une des dimensions aussi, quand on travaille l'image d'Emmanuel Vaudine, c'est la dimension du symbole, enfin que l'image charrie éventuellement des symboles. Est-ce que c'est une notion qui vous intéresse dans la danse ou pas du tout ?
Non, j'essaye les symboles. On parlait de la question de faire image. Du coup, on essaye vraiment de garder les choses ouvertes. Donc, la question du symbole, c'est vraiment la même chose. C'est-à-dire que d'ailleurs, ça s'est posé sur la toute fin, sur l'image de la fin, où on a longtemps cherché cette non-image de la fin, c'est-à-dire de ne pas finir sur quelque chose qui viendrait symboliser, conclure ou fermer. Donc les choses doivent, sur cette pièce-là, les choses doivent rester ouvertes. Et d'ailleurs, je pense que j'ai toujours essayé de plus en plus de ne pas mettre de symboles, mais de laisser les choses ouvertes, ce qui les rend moins faciles, parce qu'on aime être rassuré par les choses. Et je crois que j'ai de moins en moins envie de ça. Ça, c'est assez clair.
Est-ce que pour vous, la danse suggère quelque chose ?
Vaste question. Je sais pas si la danse suggère quelque chose. Moi, de toute façon, j'ai aussi un peu l'impression que aujourd'hui, ce spectacle dont finalement, j'ai toujours peur qu'il y ait un malentendu parce que. Je suis chorégraphe avant tout, mais c'est vrai que je me nourris d'énormément de choses, que j'ai choisi d'avoir des interprètes qui viennent d'univers différents, et le fait d'avoir des comédiens dans ma pièce m'oblige à raisonner différemment sur le plateau et m'oblige à me défaire d'un savoir-faire chorégraphique que ces comédiens n'ont pas nécessairement. Tout en sachant qu'ils apportent une autre corporalité et une autre façon de gérer l'espace, et particulièrement sur ce travail sur la frontalité. Du coup, il y a vraiment une richesse qui s'installe dans ce mélange comédien-danseur. Donc j'ai toujours un peu peur, peut-être, en tout cas avec cette pièce là peut-être plus précisément, dans lequel on va dire que le vocabulaire dansé ne relève pas d'une virtuosité académique, donc j'ai toujours peur du malentendu.
Quoi un malentendu?
Mais le malentendu, c'est que en fait, je pense que le malentendu, il vient à partir du moment où les gens qui viennent voir un spectacle de danse s'arrêtent à quelque chose pour lequel ils ont déjà une leur propre vision sur ce que doit être la danse contemporaine. Donc ils arrivent et ils sont désarmés par quelque chose qui ne relève peut-être pas de la danse telle qu'ils l'imaginent dans les codes de virtuose. Et en même temps, je dis que je ne fais pas non plus de théâtre, donc je reste, c'est éminemment chorégraphique, et particulièrement dans cette pièce dans laquelle on a vraiment cherché à gommer, on s'est aventuré avec beaucoup de matériaux différents, extrêmement chorégraphiques, extrêmement chorégraphiés à des moments que j'ai défait, on a fini par laver tout ce matériel pour arriver à une sorte de représentation qui soit la plus naturelle et dans laquelle finalement chacun puisse se projeter sans que la danse, dans tout ce qu'elle a de presque sacré, viennent obturer le regard qu'on pourrait en avoir. Donc aujourd'hui, pour moi, la danse vraiment se défait de tous ces codes, même si j'ai eu une formation classique, globalement assez académique. Je sens que je m'éloigne d'une certaine forme de virtuosité académique pour trouver une forme de virtuosité dans lequel chaque geste est travaillé, mais vraiment travaillé, retravaillé pour arriver à une sorte de dénouement assez simple. Je pense par exemple à la question des larmes, où on a vraiment fait tout un travail de recherche iconographique autour des lamentations dans l'Égypte ancienne, des lamentations dans l'Italie du Sud. On a beaucoup regardé le Jeanne d'Arc de Dreyer. On s'est nourri de beaucoup de choses. On a codifié énormément jusqu'à défaire tout pour que finalement chacun se mette à pleurer en étant nourri de toutes ces images, mais les ingurgite pour en faire, pour en produire d'autres. Donc, et pourtant, voilà, la danse est vraiment toujours là, mais elle est au plus proche, en tout cas, de quelque chose qui serait recevable sans l'artifice du code gestuel, chorégraphique auquel peut-être certains ont besoin toujours de s'appuyer pour voir quelque chose. Et en même temps, ça, voilà, ça crée de l'éloignement. Et moi, j'avais besoin pour cette pièce de créer du rapprochement.
Emmanuel Vaudine, on entend un extrait de votre spectacle, on entend justement ses émotions, enfin en tout cas le son de ses émotions, juste après la musique Moderate, A New Error, qui est un des titres qui revient en boucle dans ce spectacle. On a la sensation, en voyant Cocagne, votre dernière création, d'un spectacle qui se relance toujours, comme une espèce de machine qui, à chaque fois, se relançait. Est-ce que c'est comme ça que vous l'avez pensé ?
Oui, oui, j'avais envie de cette musique s'est imposée très très vite et c'était difficile d'en choisir une autre une fois qu'on l'avait trouvée. Donc elle a été, elle est néanmoins retravaillée puisque même si elle revient, elle est retravaillée par David Monceau qui est aussi sur le plateau parce que j'ai eu une équipe un peu polymorphe. Donc David est aussi compositeur et danseur et compositeur et il a retravaillé accompagné de David Wörth le morceau pour lui donner cette charge, voilà. Enfin, il y a le travail sur la répétition qui n'est jamais tout à fait le même morceau puisqu'il est à chaque fois retravaillé dans une version différente. Mais il y a la question effectivement du leitmotiv et de quelque chose qui revient hein, comme ça en permanence, comme une sorte de chose un peu lancinante et qui en même temps, à force de l'entendre, voilà, elle vient aussi comme elle vient poser une sorte de page blanche puisqu'elle elle revient, on l'a déjà entendue, donc on ne la réentend jamais de la même façon. Donc c'est une façon de tourner la page un peu à chaque fois.
De structurer le spectacle.
Et de structurer le spectacle, oui.
Quand est-ce que vous vous dites, quand vous créez un spectacle comme celui-là, que vous tenez la structure ? Que vous vous dites, ça y est ?
Ah, alors, ça c'est difficile parce que en fait, moi je travaille mes pièces sur un temps très long puisqu'on a commencé en novembre 2016 et la première a eu lieu en novembre 2018. Donc c'est 2 ans de travail, évidemment, avec des semaines de répétition très espacées les unes des autres. Donc on a Sur cette pièce-là, on avait une facture de pièce qui est venue assez vite, je dirais, au bout de 4 semaines de répétition, étalée en gros sur 6-8 mois. Et puis, très vite, il y a eu une première version de la pièce, une deuxième version de la pièce, une troisième, une quatrième. Et il y avait des versions très différentes à chaque fois de la pièce, jusqu'à ce que, à un moment, voilà, il y ait une dernière version qui arrive. Qui me semblait satisfaisante, mais on a beaucoup, on va dire, tourné autour du pot, parce que c'est dans sa facture, au-delà de la structure, il y a un côté effectivement qui pourrait sembler extrêmement performatif, donc qui fonctionnait très bien au départ sur la question de la performance, de je pleure, je ris, mais qui manquait pour moi très vite. Au-delà de la question de la performance, on voit très vite quand ça s'essouffle et quand le socle de chaque séquence n'est pas suffisamment ou quand la séquence elle-même n'est pas suffisamment, je ne sais pas si je peux employer le terme de imbibé d'un certain nombre de choses, de sources qui viennent, qui permettent aux interprètes de renourrir sans arrêt la séquence et de s'appuyer sur un certain nombre d'images différentes les unes des autres, et ce qui fait que voilà, la pièce finit par tenir, en tout cas sans qu'on ait besoin, voilà, c'est plus de la performance, on est vraiment à l'endroit du chorégraphique parce qu'elle est extrêmement écrite. Donc c'est à partir de ce moment où j'ai senti que la pièce vraiment tenait toute seule et qu'on n'était plus dans la performance, mais dans quelque chose qui pouvait se rejouer, se renourrir grâce à l'ensemble des éléments que j'avais amenés tout au long de ces 2 années, que j'ai senti que la pièce était là. Mais bon, voilà, à un moment, il faut finir une pièce, donc on l'a fini, mais je pourrais dans l'absolu continuer, et on continue toujours de nourrir le travail représentation après représentation.
Dans ce travail particulier sur donc les émotions et cet état entre le rire et les larmes des comédiens des comédiens danseurs qu'on entendait tout à l'heure, je me suis dit qu'il y avait quelque chose aussi de particulier, c'était le travail sur les visages, sur le fait qu'on a des visages en danse là qui sont expressifs, alors que traditionnellement, enfin dans une forme de danse plus traditionnelle, les visages sont soit de marbre ou soit une seule expression. Est-ce que c'est quelque chose qui a été important dans le travail aussi, travailler vraiment sur le visage?
Oui, c'est vraiment la pièce travaille vraiment la question de la prise en charge de l'émotion sur les visages, ou pas, puisqu'il y a des séquences où effectivement on découpe corps et visage. Il y avait vraiment l'idée de partir du travail mise en lumière d'Eisenstein dans le cuirassé Potemkin, mise en lumière par Didier Huberman, et puis après toute une succession de films autour de la question de la prise en charge de l'émotion comme ça sur le visage. Donc on a vraiment poussé à l'extrême ce travail sur les visages, en allant chercher ensuite pour toute la séquence qu'on a appelée la séquence politique des choses très précises, puisqu'on est allé chercher un discours d'Hitler, discours de 34 de Nuremberg, où il y a tout un travail, voilà, on a vraiment chorégraphique qu'on a pris à partir d'un extrait de ce discours d'Hitler, dans lequel le visage est extrêmement à la fois précis et caricatural. Donc on a été chercher des choses très très fortes et on les a vraiment pris en charge de manière presque chorégraphique, mais presque formelle, en allant au plus loin, le plus loin possible dans la prise en charge. C'est-à-dire que c'est vraiment la caricature de la caricature de la caricature pour le pousser à bout. Bon, voilà, on a...
Et c'est des choses que vous pouvez fixer, par exemple? Ou à un moment, des expressions sur des visages.
Oui,
dites,
alors voilà,
c'est bon.
Là, on a vraiment bon. Ils ont dans cette séquence politique, il y a vraiment tout un vocabulaire qui est commun à l'ensemble, et que j'ai entièrement redéfait pour que chacun se l'interprète à sa façon. Donc c'est là qu'on voit que finalement aussi dans le travail, il y a des choses qui se ressemblent mais qui sont plus tout à fait les mêmes. C'est tout le travail du temps qui a permis que je puisse défaire ça et qu'il se le réapproprie. Pour rejoindre un peu ce que je disais tout à l'heure sur sur le fait que à partir du moment où le chorégraphique pur et dur est très en avant, c'est une sorte de mise à distance qui permet au spectateur d'être moins en porosité avec ce qui se passe au plateau. Donc je redéfais et je redistribue tout ça aux interprètes et ça leur permet de continuer à faire vibrer eux leur travail d'interprétation et ça permet aussi, je pense, aux spectateurs de s'y projeter plus facilement.
Il y a aussi une forme qui court tout au long du spectacle, enfin qui peut prendre plusieurs formes d'ailleurs, mais qui relève du mime.
Oui.
Et ça m'a surpris.
On a poussé parce qu'on est vraiment, alors on est parti de ce travail d'Eisenstein cité par Didier Berman et beaucoup de cette question des attractions, beaucoup de cette question de l'association du burlesque au tragique, de cette espèce de contradiction entre burlesque et entre comédie et tragédie et de cet effet de vase communicant que Eisenstein prône dans son travail et qui est aussi une interprétation du travail de Meyerhold sur ce que Didier Berman a appelé les embrassements conflictuels, à savoir que un geste contient une chose et son contraire. Et nous, on a beaucoup travaillé sur cette question-là. On a beaucoup travaillé sur la question du conflit, du coup, et du passage du burlesque à la tragédie, en grossissant les traits et en travaillant aussi sur cette porosité. Dans la séquence des larmes, on a vraiment travaillé sur cette idée que dont parle Eisenstein, qui est que et Meyerhold sur le fait que pour bien savoir pleurer, il faut contenir en soi une joie, une véritable joie. Et ça m'a intéressé parce que c'est quelque chose aussi que j'avais traversé quand j'étais partie aux États-Unis, à savoir que il y a finalement pas si longtemps que ça, un chercheur a trouvé cette théorie qu'il a appelée la théorie des processus opposants et qui explique entre autres la question de l'addiction et qui explique que une émotion positive est toujours suivie d'une émotion négative et inversement. Donc en fait, les émotions positives et négatives sont toujours en totale parfaite association. Et d'une certaine façon, c'était amusant de voir qu'en 1920, Meyerhold et Eisenstein travaillaient cette question-là. Et nous, on a beaucoup travaillé cette question-là, à la fois dans la question du travail sur les visages, où on passe sans arrêt des extrêmes, du burlesque à la tragédie, en travaillant, en allant jusqu'à la question du mime, et dans la question aussi des associations, comme ça, assez farfelues. Je sais plus ce que je voulais dire.
Et que toutes les émotions sont composées, mélangées.
Et tout est mélangé, mais bon, voilà, c'était amusant de voir que, oui, voilà, que cette théorie des processus opposants que j'avais découverte, finalement, était d'une certaine manière...
C'était les artistes qui l'avaient découvert en premier.
Qui l'avaient découverte en premier, mais je crois qu'Eisenstein, en plus, était aussi très friand aussi de psychanalyse, donc tout ça se rejoignait. Et nous, on a voulu travailler ça à cet endroit-là, mais on a travaillé ça aussi. Enfin, moi, j'ai cherché en tout cas cette question des oppositions en permanence dans la pièce, et j'ai beaucoup travaillé sur cette question effectivement du conflit qui est présent dans le cinéma d'Eisenstein, à la fois dans le montage, le montage des images, montage des gestes. Enfin, ça a été une espèce de source infinie d'exploration, cette question du conflit, pas uniquement dans le geste, mais aussi dans la question du montage, tout simplement, des séquences en elles-mêmes.
La difficulté où on est quand on essaye de penser un peu les choses, c'est que d'un côté, on méprise les émotions, notamment dans le monde intellectuel. Il y a des gens qui disent on peut pas faire de la politique avec les émotions, il faut voilà. Et puis d'un autre côté, on abuse des émotions, c'est-à-dire soit les émotions, mais c'est pareil pour les images, je dirais. Soit on leur refuse tout parce qu'on dit oh là là, c'est de l'illusion, soit on leur demande trop. Dans l'histoire de la philosophie, vous avez une tout simple opposition, hein, entre actif et passif. une émotion. C'est passif, hein, c'est le mot grec pathos, c'est le pathos, hein, et aujourd'hui on emploie ce mot de façon très péjorative. C'est dommage parce que c'est le grand mot de la tragédie grecque, c'est le grand mot de Nietzsche, c'est le grand mot de Freud. Donc si vous voulez, je pense que celui qui a pris la photo du petit Elan, il cherchait pas à faire pleurer, il a pris la photo, point barre. C'est pour ça que j'insistais tout à l'heure sur le montage. Quand vous voyez une photo dans un magazine, regardez ce qu'il y a autour et méfiez-vous. Hein, voilà, c'est ça. Il faut voir comment est montée une image. Et c'est comment elle est montée, c'est-à-dire comment un mot apparaît dans une phrase, que le sens apparaît. Une image n'a pas de sens toute seule. Et c'est ce que dit Godard, par exemple.
Emmanuel Vaudine, on entend la voix de Georges Didier Huberman, dont on a parlé déjà depuis le début de cette émission, une archive de France Inter de 2016, où il parle de cette question des émotions et des larmes et de leur lien avec les images. Il parle de cette question du montage. Et je me suis demandé si ce spectacle, Cocagne, vous l'aviez pas pensé justement comme un montage, avec cette idée que comme une image n'arrive jamais toute seule, un geste n'arrive jamais tout seul, qui est toujours à penser en relation avec d'autres gestes.
Oui, bien sûr. Oui, c'est pour ça que on a travaillé à la fois. Il y a une sorte de mise en abîme perpétuelle, puisqu'il y a évidemment des choses qui se contredisent dans les tableaux qui sont présentés systématiquement par petites touches, mais comme un détail qui tue presque, à savoir par exemple. 8 interprètes qui pleurent et un qui ne pleure pas, à savoir une interprète qui mange une glace pendant que d'autres sont en train de vociférer en silence. Donc il y a montage et il y a association de choses qui a priori viennent créer cette idée de conflit ou de choses qui vous permet de ne pas être happé par ce que vous voyez, mais d'être à la fois happé et à la fois
distancé,
voilà, mis ailleurs, se projeter ailleurs, en fait, que la séquence, que ce qu'on est en train de voir n'est une sorte de double regard ou de double interprétation. Donc oui, le montage, effectivement, ça a été la question de Cocagne à tous les endroits, à la fois dans les séquences et à la fois dans le montage.
Dans l'idée qu'il faut se méfier des émotions, qu'évoque Georges Didier Huberman, en voyant le spectacle, je me suis dit que les émotions qui étaient travaillées étaient déconnectées d'une forme de psychologie.
Complètement.
C'est-à-dire, il ne s'agissait pas de « on pleure parce qu'on est triste » ou ce genre de choses. C'était ça qu'il vous fallait défaire aussi, détacher la psychologie de l'émotion.
Ah mais complètement. C'est-à-dire que il y avait vraiment l'idée que, enfin, c'est là où le enfin, c'est mon travail, on va dire, mais c'est aussi le travail des interprètes que je reprends systématiquement dès qu'il y a un petit indice de résolution qui viendrait rendre l'affaire psychologique. Donc, non, je ne juge pas ce qui est présenté, c'est présenté, et j'essaye de laisser le champ ouvert, même si, effectivement... dans une séquence où je demande aux interprètes de représenter ce qui représenterait peut-être un humain, ce qui pourrait faire penser à un charnier de corps, je fais très attention effectivement à le composer, c'est-à-dire que si j'avais voulu faire une pièce psychologique, j'aurais demandé aux interprètes de s'effondrer, peut-être comme le font d'ailleurs les enfants qui jouent à tomber, à être morts. Là, l'idée, c'était vraiment de travailler très précisément la façon d'aller au sol et de composer ce tableau-là. Pour le mettre à distance ou en révéler peut-être quelque chose qui reviendrait à dire on est aussi capable de fabriquer ça.
Ce qu'on voit aussi dans Cocagne, c'est beaucoup des émotions qui sont collectives par le fait qu'il y a 9 danseurs sur le plateau, mais c'est l'idée qu'on éprouve une émotion collectivement et qu'on n'est pas tout seul. Est-ce que c'est quelque chose qui vous a traversé aussi ?
Oui, alors pour encore le reciter, c'est vrai que je me suis beaucoup interrogée sur cette question du chagrin personnel. Didier Berman dit à propos de Eisenstein et des pleureuses, le chagrin ne dit pas je. Et effectivement, on a beaucoup travaillé sur le collectif et il s'agissait de travailler une humanité. Hein, donc, ça ne pouvait pas passer par le jeu, mais il fallait que ça passe par le collectif avant tout. Et puis il y avait cette idée aussi, très vite dans la pièce, au départ on est comme ça sur quelque chose qui relève presque de la vanité, et en fouillant dans la pièce, au bout d'un moment je me suis dit bon, je ne peux pas être non plus dans l'exposition de choses, de situations ou d'émotions qui relèveraient presque du constat, mais essayer de chercher en quoi on peut transformer un certain nombre de situations qui peuvent nous accabler pour permettre peut-être aussi une certaine forme d'optimisme, d'où cette espèce de, dans la séquence un peu centrale qui est la plus longue, de revirement de situation, de transformation de l'émotion dans quelque chose qui va vers... je ne sais pas si c'est l'idée du soulèvement, mais en tout cas l'idée d'une sorte de liberté retrouvée.
De quelque chose de discrètement politique.
De discrètement politique. Alors je j'aime bien dire politique et poétique parce que c'est quand même. Mais oui, politique et politique, oui, sans doute. Oui.
Merci. Merci. Emmanuel Vaudine. Cocagne, c'est le titre de votre dernière création. Elle se joue au Théâtre de Chaillot à Paris jusqu'à demain. Et on peut citer en tournée votre spectacle pour jeune public, notamment Belles et Bois. Ce sera au printemps, dans plein d'endroits. On mettra les dates sur le site internet. Par les temps qui courent, on se retrouve demain à 21h. Ce soir, au son, c'était Louis Bardinet. Sonia Lenglen était à la réalisation. Merci à Jeanne Aléos, Marianne Chassor, Lou Quevauvillier et Assa Traoré qui pensent cette émission avec moi. Pour écouter Par les temps qui courent, rendez-vous sur la page de l'émission sur franceculture.fr où vous pourrez vous abonner au podcast. Et tout de suite, le journal.
Même ma vie touche ton corps. Oh,